suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Les formes prises par les très nombreuses célébrations plus ou moins officielles du cinquantenaire de mai 68 le donnent à voir de manière éclatante. Le fameux combat dont il ne s'agissait que du début et qu'il fallait s'employer à continuer, c'est pour le moins essoufflé, si ce n'est évaporé, dans la complexité d'une société transformée mais plus que jamais aimantée par la consommation devenue compulsive, l'argent omniprésent, le capitalisme désormais addictif. C'est la thèse d'un livre signé Patrick Farrow, Le capitalisme addictif, qui paraît au PUF. Patrick Farrow est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Patrick Farrow, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vous publiez ce livre qui est aussi une manière de revenir de façon globale, je dirais, sur un parcours de recherche en retrouvant des objets sur lesquels, au fil du temps, vous avez travaillé depuis mai 68, qui est un point de départ à bien des égards, jusqu'aux drogues, en passant par l'amour, les relations d'addiction, au fond, vous les connaissez bien. Vous les avez appréhendées avec différents méthodes sociologiques, mais aussi avec les outils philosophiques qui ont été les vôtres, ceux de votre formation, une manière de faire de la sociologie un peu particulière, celle de l'ethnométhodologie, dont vous êtes l'un des représentants français. Et dans ce livre, donc, vous vous intéressez à cette transformation du capitalisme, peut-on dire, en menant une enquête que vous adossez au visionnage de films très nombreux que vous avez vus, de films de diverses époques, pas seulement des films contemporains, qui vous permettent de penser cette transformation. Alors le plus naturel eût été probablement d'inviter un réalisateur ou une réalisatrice de cinéma pour dialoguer avec vous dans la deuxième partie. Eh bien non, j'ai choisi une autre idée, peut-être un peu plus compliquée, un peu plus audacieuse. C'est Fleur Breteau qui nous rejoindra en deuxième partie. Elle est l'auteur de L'amour accessoire, qui est un récit qui a paru aux éditions Verticales voici quelques semaines. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parte de mai 68, non pas pour commémorer, non pas pour célébrer, c'est pas du tout la posture dans laquelle vous vous mettez avec ce livre, Patrick Farrow, mais tout simplement c'est le début de votre travail, c'est le début de votre travail de sociologue, et j'ai le sentiment que c'est avec ce point fixe, point de départ, que vous avez conçu tout ce livre en étant capable à différents moments de vous projeter rétrospectivement et de regarder, de mesurer au fond un certain nombre d'écarts, Patrick Farrow.
Oui, on peut dire ça. Bon, mai 68, il se trouve que j'ai été militant à cette époque-là. Le premier chapitre s'appelle « La liberté de mai 68 ». Qui est pas exactement la même que ce qu'on appelle la liberté des anciens ou la liberté des modernes, qui est une vision en fait qui n'est pas non plus individualiste comme on le dit, qui n'est pas non plus centrée sur le uniquement sur la liberté, mais qui est centrée aussi sur l'égalité. Ce qui me semble être l'acquis fondamental de mai 68, que je range évidemment dans ce un principe d'émancipation qui est très ancien et puis qui a été réexprimé au XXe siècle, au moment du Front populaire, de la libération. Bon, c'est la possibilité, la liberté de choisir sa forme de bonheur, vous voyez. Donc c'est pour ça que je commence le livre là-dessus, parce que je pense que c'est cette liberté de choisir sa forme de bonheur qui est mise en cause aujourd'hui en réalité par toutes sortes d'évolutions du capitalisme. Ce mot, d'ailleurs, quand j'ai commencé à le réutiliser, me paraissait bizarre, parce que, bon, finalement, il y a 50 ans, c'était un mot qui était très, très familier pour nous. Et puis, moi en particulier, d'autres, ils sont restés très, très fidèles, de façon, on pourrait dire dogmatique.
Et puis d'autres y sont revenus, je pense en particulier au livre de Luc Le Boltanski, F.
Oui, Chapello. Bien sûr, mais alors ils y sont revenus dans la perspective sociologique, je dirais classique, même si les thèses de Luc ne sont pas exactement celles de Max Weber. Mais ce mot est revenu simplement pour essayer de rendre compte de ce qui se passait Alors, pour vous dire un peu comment je suis arrivé à cette idée de capitalisme addictif, il faut quand même que je vous dise qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, mon sujet principal, c'est les problèmes d'addiction, les processus addictifs, etc. Alors, pourquoi parce que je me suis intéressé au... effectivement, j'étais ethnométhodologue, l'action, ça m'intéressait. Et donc, la question de la motivation pratique, la question du plaisir aussi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Puis, je me suis intéressé aux sciences cognitives. Puis, c'est très compliqué, les sciences cognitives, donc ça fait très longtemps que je m'y intéresse. Et il m'a semblé à un moment qu'une façon d'attraper quelque chose de solide, c'était de travailler sur ces problèmes d'addiction. Parce que il y a un versant, disons, sciences cognitives qui était très fourni, parce qu'il y a eu de très gros progrès qui ont été faits dans ce domaine, et puis un versant clinique qui est bien connu. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus il y a une vingtaine d'années, depuis, de façon très, très classique, en faisant des enquêtes. Sociologie très classique, j'ai été voir des gens, puis j'aurais demandé pourquoi vous êtes venu accro à quelque chose et pourquoi vous avez arrêté, parce que c'était des gens qui essayaient d'arrêter. Bon, c'était centré à l'époque, surtout sur l'alcool, la cocaïne et l'héroïne. Voilà. Et puis c'est en travaillant là-dessus, donc en lisant, Dieu sait s'il y a des choses qui ont été écrites sur ces problèmes de drogue, d'addiction, que je me suis rendu compte qu'on pouvait pas séparer le phénomène d'addiction massive au XXe siècle. Alors il y a d'autres sociétés où on utilise des substances, par exemple le cadre dans la corne de l'Afrique, la coca dans ou de l'alcool même. Quand vous lisez Engels sur la classe ouvrière en Angleterre, il y a l'alcool, il y a même aussi de l'opium. Donc on a toujours utilisé des drogues. Il y a pas de société sans drogue. Mais il y a eu une sorte de massification des addictions et en tout cas une apparition publique du problème au travers. Alors
on peut prendre même l'exemple dans l'actualité aux États-Unis avec cette crise du rapport aux médicaments qui est peut-être le dernier avatar de...
Voilà, c'est une des histoires. Ça illustre très bien le lien qu'il peut y avoir entre ces problèmes individuels. Bon, l'oxycontin, etc., les antidouleurs, c'est des drogues qui ont fait plus de 200 000 overdoses ces dernières années aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est bien plus tueur que l'héroïne et le crack. Et une autre particularité aussi...
Les Américains commencent à s'en rendre compte
depuis... Ils s'en sont rendu compte depuis un moment. C'est peut-être en France qu'on s'en rend pas compte suffisamment, puisque maintenant, depuis 2 ans, on rembourse certains antidouleurs plus largement qu'on le fait. Alors qu'au départ, c'est des médicaments dont le but était de soigner le cancer et qui ont été libéralement, on pourrait dire, prescrits par les médecins américains, qui ont ensuite donné lieu à un trafic. Alors, si vous voulez, il y a une sorte de court chemin entre le travail des firmes, dans le cadre du capitalisme actuel, qui est hyper rationalisé, lobbyisme intensif, etc., donc pour autoriser les produits, pour les rendre, pour les faire autoriser, etc. Et puis les consommateurs, d'un côté on a des gens qui se défoncent et qui éventuellement peuvent se tuer avec les antidouleurs, et de l'autre vous avez des entreprises qui de façon régulière, obstinée, on pourrait même dire compulsive, cherchent à vendre ces produits. Donc voilà, ça c'est un exemple, on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais si vous voulez, quand j'ai travaillé sur les drogues en lisant la littérature, les drogués en fait c'est des gens qu'on stigmatise, c'est le junkie, c'est l'alcool, etc. Aux États-Unis, c'est une catégorie très particulière, c'est les classes pauvres, c'est les minorités, etc. Alors qu'effectivement, les antidouleurs, ça touche aussi les classes moyennes aisées, etc. Donc, il y a toute une stigmatisation. Mais ce qu'ont montré, en fait, les sciences cognitives en particulier, c'est que les drogues agissaient sur des circuits de la récompense et d'autres systèmes neuronaux qui n'ont pas été fabriqués pour les drogues, qui ont été fabriqués dans l'histoire évolutionnaire pour d'autres fins, c'est-à-dire l'attachement parental et l'attraction sexuelle, essentiellement. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Donc, moi, j'ai repris cette thèse-là, notamment... Dans la dépendance amoureuse, et qui sont, on dit, piratés par les drogues. Autrement dit, les équipements qui font qu'il y a des gens qui, consommant de l'alcool, consommant de la cocaïne, peuvent éventuellement devenir addicts, parce que tous les gens qui consomment de l'alcool, de l'addict, voire même de l'opium, ne deviennent pas addicts. Les mécanismes de la motivation sur lesquels ça joue, ce sont des mécanismes que tout le monde a. Et effectivement, après, si on regarde un peu les choses plus largement, on voit que dans la forme de vie qui est la nôtre, ces systèmes de motivation sont constamment mobilisés à des fins à des fins économiques et
commerciales
et à des fins commerciales, puisque donc ça c'est les descriptions classiques, la société de consommation, etc. On cherche, parce que le principe même du genre de société dans lequel on vit, c'est de pouvoir élargir les marchés, donc avoir de nouveaux objets de consommation, donc avoir
de nouveaux consommateurs,
donc pouvoir les faire désirer ces choses-là. Et sur quoi on joue, c'est également étudié en sciences cognitives, on joue sur ces mêmes circuits qui sont impliqués dans les questions d'addiction, etc. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu abusif, disons, de mettre à part une catégorie de la population, les drogués, les junkies, etc., pour un phénomène qui touche, en fait, la société tout entière.
Et c'est ce phénomène que vous essayez de mieux comprendre, en passant aussi de l'échelle individuelle à l'échelle globale, voilà, de la société, en essayant de comprendre à la fois ce qu'on doit à l'héritage de ces moments de libération. Vous êtes parti de 68, mais vous rappeliez à quel point ça doit des choses aux Lumières, oui, à la Révolution française, probablement au Front populaire ou la libération d'après-guerre, pour prendre des moments moins éloignés dans notre histoire. Au fond, ce mouvement d'émancipation que vous décrivez, il se poursuit, il produit des effets, mais le capitalisme ou le mode d'organisation de nos sociétés s'est également adapté à cette émancipation, l'accompagne à certains égards ou le canalise, l'oriente, l'aimante dans certaines directions.
Oui, bon, il y a quelque chose d'addictif dans le fait même de chercher à s'enrichir par le commerce. Hein. C'était déjà dans la notion aristotélicienne de crématistique, cette idée-là. Et puis après, on a retrouvé ça dans les descriptions classiques du capitalisme de Weber, c'est-à-dire l'argent pour l'argent, etc. Et ça c'est ça se manifeste aujourd'hui dans la phase actuelle du capitalisme, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec les processus de rationalisation que décrivait Weber, mais qui est plutôt une phase ultérieure. Ça se caractérise par une série de phénomènes: optimisation extrême des activités, élimination des sources de déficit, accélération de la course à l'argent et au succès, la possibilité aussi de faire de l'argent comme on n'a jamais pu en faire. Alors, la part des mouvements de mai 68 dans cette histoire, elle est à voir avec circonspection. Il y a eu des auteurs comme par exemple Régis Debray qui ont pensé que mai 68 avait été le meilleur moyen de régénérer le capital. Moi, je pense pas ça. D'abord parce que le mouvement de 68 était libertaire et égalitaire, hein. Et puis parce qu'il y a bien ça, sans doute l'ambiance culturelle, parce qu'il y a eu une véritable libération des mœurs, une véritable déculpabilisation, une véritable décomplexion. Donc ça, tout le monde en a profité, et ceux qui en ont finalement profité le plus, c'est les élites économiques, qui ont pu se décomplexer encore plus facilement, y compris dans les familles royales, où on assiste à des affaires qui paraissaient impensables il y a 30 ou 40 ans. Donc on s'est effectivement décomplexé, mais le développement addictif dans ce stade actuel du capitalisme n'est pas lié à mai 68. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a bien d'autres éléments. Il y a par exemple le triomphe de l'idéologie économique pro-market. Les possibilités nouvelles qui ont été offertes. Il y a des mécanismes économiques comme la liberté d'échange, la titritisation, etc. Tout ça, voilà.
Les changements dans les normes juridiques.
C'est pas 68, tout ça, voilà.
Qui ont été très importantes dans les années 70 et des politiques publiques de libéralisation des marchés. Mais non, ce qui est intéressant pour aller plus loin dans la manière dont vous pensez le lien, au fond, entre non seulement 68, mais plus largement ce mouvement d'émancipation dont vous parlez et les transformations du capitalisme que vous décrivez, au fond, si je vous ai bien lu, Patrick Farrow, vous expliquez que l'émancipation, qui est toujours une dynamique, est une dynamique qui est de plus en plus freinée.
Exactement.
Par la forme qu'a pris l'évolution du capitalisme.
Exactement. C'est-à-dire
du fait de cette dimension addictive.
Alors, on arrive à une situation que personne, en tout cas pas les descendants de 68, ont voulu, qui est effectivement la participation de tout le monde à une forme de vie qui nous accapare par toutes sortes d'aspects, parce qu'elle nous en sert, parce parce qu'elle nous oblige à consommer des tas de choses, qu'elle nous fait regarder notre écran 10 fois par jour pour voir si on a des nouvelles de quelqu'un sur Facebook. Donc il y a une sorte de critique lancinante de la forme de vie dans laquelle on est pris. Il y a quand on fait des enquêtes, il y a des grosses enquêtes qui ont été faites sur l'évaluation du capitalisme, elles sont négatives. Les gens vivent dans un système qui font fonctionner. Hein, c'est-à-dire que une des critiques classiques du capitalisme, chez Marcuse et tout ça, c'est l'idée de l'aliénation, etc. Les gens ne sont pas si aliénés que ça. Les gens voient bien que on voit bien dans quelle société on vit. Il y a une conscience en fait de cette société-là, et on a aussi la conscience qu'on l'alimente, hein, qu'on l'alimente par nos achats, par nos voyages, par nos goûts, par nos courses au succès. Hein.
C'est-à-dire qu'au fond, ce rapport addictif, on n'est pas dans cette idée d'opium du peuple où en fait les gens seraient anesthésiés par ce rapport addictif.
Il n'y a pas de fétichisme de la marchandise. La marchandise, c'est pas un fétiche. La marchandise, c'est ce qui nous permet de bien vivre. C'est pour ça aussi que la sortie du capitalisme et la possibilité de sortir de cette phase addictive du capitalisme est un problème, parce que il faut, si vous voulez, quand on est aliéné, il suffit de prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, on fait un mouvement révolutionnaire.
On a déjà fait au moins la moitié du travail.
Voilà. Tandis que là, prendre conscience, on a déjà conscience, il faut changer l'ordre de nos désirs. Et c'est pas si facile que ça. Alors que, par ce qu'on fait, on participe à une forme de vie, je dirais. Un système, j'aime pas trop, mais une forme de vie qui nous est profitable et en même temps, enfin, qui est profitable.
À certains égards.
Très profitable aux élites, profitable aux classes moyennes éduquées. Les classes populaires, on en a largement profité pendant un moment, mais maintenant, quand on lit un peu les travaux sociologiques sur les classes moyennes, et puis les classes populaires, on se rend compte que c'est beaucoup moins le cas, il y a beaucoup de peur, etc. Mais auquel on adhère malgré tout, hein. On adhère, ça se traduit aussi d'une certaine façon par les élections, hein, puisque sur 28 pays européens, il y en a plus de 20 qui sont gouvernés par des gouvernements de droite, et la politique européenne va dans ce sens-là aussi. Donc on est dans un système dont on profite et en même temps, je dirais, qui nous démoralise. Donc c'est un peu ça le problème du capitalisme addictif.
Alors, on est dans ce moment, et c'est pas étonnant, du coup, que cette critique dont vous avez parlé se développe, parce qu'il y a la conscience, c'est pas comme si on savait pas, et ceux qui savent peut-être encore plus que d'autres, ou qui le savent et l'expriment d'une autre manière, c'est peut-être les artistes. Et en particulier, ceux qui vous ont intéressé pour cette enquête, ce sont des cinéastes. Donc vous avez repéré ces éléments de critique dans un certain nombre de films, qui pour certains d'ailleurs datent, ce qui montre bien que le phénomène auquel on a affaire est un phénomène ancien, mais et des films très différents qui vont de documentaires à la fois sur le capitalisme, il y en a quelques-uns, ou sur la société française aujourd'hui, mais également jusqu'à des fictions qui pourraient sembler fort éloignées de ce dont nous parlons depuis le début de l'émission.
Effectivement, j'ai travaillé sur le cinéma principalement dans ce film, aussi dans mes livres précédents, notamment un qui s'appelle La belle vie dorée sur tranche, qui est un peu lié à ça, qui est plus philosophique. Mais mon objet est devenu effectivement principalement le cinéma. Alors, dans ce livre en particulier, ce que je voulais faire, c'est une sorte de bilan de la société. Mais je voulais pas faire un essai, si vous voulez, d'abord parce que j'ai pas les moyens. Il y a des gens qui font des essais beaucoup plus intéressants que les miens. J'avais pas la possibilité parcourir l'ensemble de la littérature qui a été produite sur les différents secteurs de la vie sociale, etc. Et donc c'était au-dessus de mes forces pour cette question-là, hein, celle du capitalisme, et pour d'autres questions aussi. Donc je pense que pour faire de la sociologie, il faut deux choses. Il faut d'une part un mécanisme qu'on pense central, qu'on va essayer de repérer, hein, chez Bourdieu, c'est l'habitus, c'est Durkheim, c'est les courants sociaux, c'est l'éthique protestante, chez Weber, etc. Moi, effectivement, c'est ces mécanismes, ces dispositifs de récompense que j'ai étudié d'un peu près en m'intéressant à la drogue. Et puis il faut d'autre part un objet, c'est-à-dire quelque chose où on va pouvoir l'observer. Alors j'ai pris le cinéma, d'abord parce que j'aime le cinéma. Je vais
beaucoup au cinéma,
je suis cinéphile, j'en vois beaucoup. Enfin, même en envoyant un par jour, hein, on a encore toujours beaucoup de retard. Mais bon, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que c'est un témoignage sur la société. Alors, c'est un témoignage entièrement biaisé par toutes sortes de choses, les producteurs, les réalisateurs, etc.
L'univers économique de production.
Le cadrage, la façon de couper, de monter, etc. C'est archi biaisé. Mais c'est quand même un témoignage. Ça existe, c'est là. Et qu'est-ce que fait ce témoignage? Alors, c'est un producteur ou un réalisateur, c'est un film d'auteur qui a une idée de film et qui va réussir à mettre en branle une équipe de gens en leur disant, voilà, c'est ça, de ça qu'on va parler. Alors, ça peut être un rapport sociologique, ça peut être aussi quelque chose de complètement fictif, complètement imaginaire, complètement abracadabrande, quand on pense, par exemple, aux conversations philosophiques de Tarantino ou que sais-je encore. Bon, mais on leur dit, voilà, on va essayer de rendre ça crédible avec ce qu'on sait de la société, c'est ça. On demande aux gens, vous savez des choses de la société, vous avez les acteurs, ils savent des choses, ils le vivent en fait. Bon, ils sont souvent dans les mêmes milieux sociaux que ceux qui font les réalisateurs, puis qui font les films aussi. Les cadreurs, ils savent ça. Tous ces gens-là sont les gens qui font du casting, c'est très important le casting dans un film. Ils vont voilà. Donc il y a toutes ces compétences polyphoniques, on peut dire, qui vont essayer de chercher à faire ce film. Voilà. Et on a un témoignage. Alors après, là, on peut travailler de façon un petit peu méthodique, c'est-à-dire, alors bon, faire des corpus. Hein, parce que les sociologues, c'est ce qu'ils font. Et bon, moi, ça, j'ai pas envie de faire des essais, et ça me permet de travailler. Donc sur les corpus que je fais, alors il y a une part d'arbitraire parce que je vois pas tous les films. Puis il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, qui m'auraient fait écrire le livre différemment, etc. Mais ça permet de créer une réflexion. Et là, ce qu'on voit, c'est une sorte de bilan extrêmement négatif de la société dans laquelle on vit. Moi, je l'interprète dans les termes de ce capitalisme addictif, donc de ces processus addictifs qui poussent à rechercher des récompenses de façon compulsive et quasiment incontrôlable. Mais quand je vois le terme d'addiction dans les films, il est très présent, je le repère parce que c'est mon sujet. Mais même si on n'utilise pas ce terme, c'est souvent dans cette vision de l'emprise, hein, de l'emprise sur notre intimité. C'est peut-être ça aussi qui fait le lien entre. C'est pour ça qu'entre 68 et aujourd'hui, c'est parce qu'on a essayé de libérer notre intimité en 68, libérer notre possibilité de choisir notre forme de bonheur. Et puis, c'est justement cette intimité. Il y a eu beaucoup de livres de sociologues aussi là-dessus. C'est ça qu'on colonise. C'est avec ça qu'on fait des très gros profits. Facebook étant l'exemple extraordinaire. Enfin, Amazon c'est un peu plus classique d'une certaine façon. Mais Facebook a imposé un format sur nos amitiés. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et alors, il y a des tas de professions qui peuvent pas s'en passer. Si vous êtes artiste, si vous lancez une start-up, etc. Vous avez un projet, etc. Il faut vous passer par Facebook, hein, parce que c'est comme ça. Donc c'est nécessaire. Hein. C'est comme il y a toutes sortes de quand on est aussi à des systèmes de surveillance ou au travail simplement, on ne peut pas s'en passer, non seulement parce qu'on a notre désir, mais parce que sinon on n'aura pas le travail, etc., on n'aura pas l'emploi. Bon, mais donc on ne peut pas s'en passer pour certains, mais en même temps ça formate terriblement nos relations sociales, etc. Alors d'une certaine façon, en sociologie on parlait d'interconnaissance, etc. D'une certaine façon c'est à la fois beaucoup plus riche parce qu'on en dit beaucoup plus, hein, beaucoup trop quelquefois, et puis je raconte des séries, il y a beaucoup de séries qui ont été faites là-dessus, bon, où il y a des malheurs et des calamités liées à ce système d'emprise de Facebook. Mais Facebook c'est un bon exemple. Bon, les écrans en général, hein, vous avez, en plus, la France n'est pas le pays où on regarde le plus d'écrans. Vous allez dans des pays, en Chine par exemple, les gens dans un métro chinois, personne est sans son smartphone. Tout le monde est sur un écran. Donc c'est quelque chose, c'est une sorte de d'emprise planétaire, c'est-à-dire qu'on communique avec les autres par l'écran. On est dans le monde avec l'écran. Il y a quelque chose d'addictif là-dedans, clairement. Voilà.
Alors vous êtes addict au cinéma, ça c'est certain. Parmi tous ces films, parce qu'on en trouve la liste chapitre par chapitre dans votre livre. Et est-ce que vous diriez qu'il y a quelques-uns de ces films, je dirais, dans lesquels vous avez trouvé non seulement des traces de ce sur quoi vous travaillez, mais je dirais même au-delà une forme de compréhension un peu globale, un peu systématique, qui pourrait ressembler à votre approche? Moi, je me disais que oui. Ce que vous dites de margin call, par exemple...
Alors, juste un mot sur addict. J'espère que je ne suis pas trop addict.
Dans mon idée
de l'addiction, il y a que ça a des conséquences nocives, que c'est nuisible. Oui. Tant que vous êtes heureux avec votre
dépendance... Vous êtes un amateur de cinéma.
Vous aimez certaines choses, et ça ne vous fait pas de mal. Et vous ne faites pas de mal aux autres, mais il n'y a pas de problème. Bon, l'addiction, ça intéresse les psychiatres parce qu'ils sont confrontés à la souffrance. Hein. S'il n'y a pas de souffrance... Bon, dans le capitalisme addictif, souvent, les souffrances sont externalisées. Les gens qui font du fric, par exemple, de l'argent... Ils souffrent pas tellement, sauf certains comme Kerviel, etc. Je vous raconte son histoire, etc. Mais sinon, c'est externalisé sur les autres. Bon, le film, c'est Margin Call, parce que bon, en effet,
2011.
Ça raconte l'histoire en fait d'une crise dans une banque parce que les traders ont pris des positions dangereuses, très périlleuses sur le marché, et que si ça se sait, et ça va se savoir immanquablement dans la journée, toute la banque va s'écrouler. Et donc il faut trouver quelque chose dans la nuit pour, c'est très ethnométhodologique, donc du coup on fait appel à la hiérarchie la plus haute de la banque, évidemment la plus haute, c'est le dieu descendu de l'Olympe qui se pose en hélicoptère sur le toit du building et qui va venir régler les choses. En effet, il les règle, c'est-à-dire qu'il ruine la plupart des partenaires habituels de la banque et il s'en sort très bien en allant prendre son petit déjeuner. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment le film qui serait le plus emblématique.
Ça vient d'un réalisateur qui est en effet particulièrement brillant, qui est Jeffrey McDonald Chandler, qui a fait en plus un autre film qui s'appelle The Most Violent Year, où il y a une autre vision de l'entreprise, qui est l'entreprise où l'entrepreneur se préoccupe de ce qui arrive à ses employés. Là, pas du tout, on s'en fiche.
Bien, on revient sur ce capitalisme addictif dans la deuxième partie de l'émission avec Fleur Breteau, mais ce sera après avoir entendu un extrait de la revisite de Bach par le pianiste de jazz Brad Meldow.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Le capitalisme addictif, c'est le livre de Patrick Farrow qui paraît au PUF, un livre dont nous parlons depuis le début de l'émission, un livre ambitieux qui essaye de comprendre des transformations du capitalisme et en particulier de comprendre le rôle que joue l'addiction dans ces sociétés dans lesquelles désormais nos formes de vie sont réglées en grande partie par cette addiction et d'une manière telle qu'on le sait la plupart du temps, qu'on en a une forme de conscience, c'est bien ça qui est troublant et qui rend la sortie, nous disait Patrick Farrow, plus compliquée. Alors, Patrick Farrow, on vient de le dire, s'est appuyé sur beaucoup de films, mais ce n'est pas une réalisatrice de cinéma que j'ai invité à dialoguer avec lui. Fleur Breteau est l'auteur d'un livre, d'un récit littéraire qui est apparu aux éditions Verticales, qui s'appelle « L'amour accessoire ». Et ce récit se déroule en grande partie dans un lieu qui me semblait intéressant de mettre en relation avec la réflexion de Patrick Farrow. Non seulement
notamment parce que Patrick Faroux a travaillé sur les drogues, mais il a travaillé aussi sur la dépendance amoureuse, et il a travaillé sur l'émancipation, sur la libération, et au fond, peut-être ce lieu est-il relativement emblématique à la fois du mouvement d'émancipation qui doit beaucoup à mai 68 dont nous parlions par rapport à la sexualité, mais aussi à la manière dont le capitalisme peut récupérer parfois l'émancipation et transformer en commodification, en bien marchand, un certain nombre de choses, ou inventer des biens marchands nouveaux. Alors ce lieu particulier, je ne sais pas, sur la quatrième de couve et dans le livre, vous l'appelez un love store. C'est comme ça qu'on dit, Fleur Breteau?
On était un petit peu embarrassés, on voulait se démarquer des sex shops.
C'est-à-dire que vous avez créé ce lieu, hein, je
alors,
précise.
J'ai cofondé avec une personne que j'ai rencontrée, et on a monté 7 magasins à Paris et en France. Et on est parti du constat qu'effectivement, il y avait une libération sexuelle. Donc on s'est dit, bah, comme tout commerce, on monte des boutiques, on met des étagères, on met des produits dessus, des petits paniers à l'entrée, et puis les gens, ils font leur marché, et puis on les encaisse. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce sont un peu les clients qui nous ont indiqué qu'on s'était trompé de chemin. Et une partie des gens, une grande partie des gens venaient pour parler. Donc, on a été un peu pris de court, pour être honnête, et on s'est retrouvé dans une position où on devait répondre aux interrogations, aux doutes des gens, voire même recevoir leurs confessions. Donc, assez vite, on a dû changer complètement le modèle économique de notre affaire, et on s'est rendu compte qu'on avait complètement sous-estimé la complexité de ce domaine, et que... on avait quelque part, on a endossé, on l'a accepté, une sorte de mission d'utilité publique. Alors ça paraît très arrogant, mais voilà, on s'est dit, bah voilà, on a besoin de former nos employés pour répondre à des questions simplement parfois physiologiques, et puis être finalement, avoir suffisamment de bon sens pour pouvoir discuter de problèmes affectifs majeurs, des petites tragédies humaines du quotidien. Donc, moi, mon expérience, elle est très empirique. J'ai pas du tout une démarche de sociologue, d'universitaire.
Non, mais vous en avez fait un récit littéraire.
C'est absolument.
Votre livre n'est pas un livre de témoignages, de documents, comme on en est fait. D'ailleurs, il paraît aux éditions verticales qui n'ont pas l'habitude de publier ce type de documents, mais des livres véritablement littéraires. C'est un documentaire, on peut dire, au fond, un documentaire littéraire.
Tout à fait, c'est un documentaire littéraire avec toute la frustration que j'ai pu ressentir pendant ces 6 années au contact de plein de gens très différents, qui arrivaient avec leurs questions et leurs problèmes et qui nous demandaient parfois de les résoudre en leur indiquant le bon produit. Et c'est vrai que j'ai accumulé pendant 6 ans des frustrations. Alors ça peut être sur des dimensions écologiques, sur la simple idée de la solitude ou de l'amour ou de la... Alors effectivement de la consommation. Et j'ai craqué quand 50 nuances degrés est arrivé. Il m'a fauché, hein. J'en pouvais plus. Ça a été le coup de grâce. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'on était sur un tout petit radeau, une petite coquille de noix, à essayer de lutter contre certaines forces très puissantes liées effectivement à la consommation, mais aussi qui transfèrent la question du désir sur l'anatomie. C'est-à-dire que à se préoccuper de notre anatomie, c'est pas du tout la même chose que de se préoccuper de nos propres désirs. Et quand vous faites face à des gens qui vous expliquent qu'il faut que ce soir ils rapportent le bon sextoy, sinon ils vont divorcer, c'est quoi la réponse en fait? Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on savait pas trop. Enfin, ça paraît fou, mais c'était ou des gens, par exemple, des hommes qui venaient acheter un jouet pour l'anniversaire de leur femme ou de leur compagne et qui se décomposaient parce que quand on parlait de stimulation du clitoris, ils devenaient tout rouges. Et en fait, il s'avérait qu'ils ne savaient pas vraiment où c'était. Alors géographiquement, ils avaient bien une idée à peu près où c'était localisé, mais c'était tout quoi. Donc, alors que ce qui est fou, c'est qu'on est dans un monde où Wikipédia est à portée de la pulpe du doigt. Donc, en 3 minutes, on peut savoir où c'est le clitoris, on peut savoir à quoi il ressemble, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait pris une place, un espace qui était laissé vide peut-être par l'éducation, les pouvoirs publics, puisqu'il n'y a pas d'éducation sexuelle. En réalité, elle est très, très minimale. Et quand on sait que le clitoris fait 11 centimètres, il y a énormément de gens qui ont la mâchoire qui tombe par terre. Donc... c'est vrai qu'on a... moi, je me suis beaucoup interrogée sur le désir et le transfert de préoccupation du désir vers l'anatomie et que la société de consommation fait que il y a la soulève la problématique du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement de choses à faire dans une journée qu'au final, on ne s'interroge plus sur son désir et ce qu'on veut vraiment.
Patrick Farreau, vous parliez précisément du désir, qui est l'un de vos objets de recherche. Comment, quel regard vous portez sur un lieu comme celui-là, qui apparaît de manière commerciale et qui se rend compte qu'au fond, un certain nombre de dimensions sociales ne sont pas prises en charge par des institutions?
C'est moins sur le lieu que sur le livre lui-même que j'ai lu, hein, qui est un livre en fait que j'ai aimé parce que c'est un... Bon, vous faites un travail... Enfin, ce que vous décrivez dans votre personnage, c'est un travail de conseillère conjugale avec beaucoup d'indulgence et de bienveillance, de sensibilité, de découverte aussi de la misère sexuelle ambiante. Hein, donc il y a cet aspect-là. Ce que j'ai vu aussi, c'est que vous êtes écologiste et féministe, hein, c'est-à-dire que vous refusez de vendre des produits qui paraissent vraiment dégueulasses, et vous refusez aussi de vendre lorsqu'il s'agit d'objets qu'on va utiliser à des fins de violence, hein, donc très clairement. Alors écologiste avec aussi cette difficulté, c'est un moment, vous imaginez où ils vont aller tous ces petits bouts de plastique, ils vont aller sur le Pacifique, hein. Voilà. Et puis l'autre remarque que j'ai aussi, c'est que c'est à la fois c'est très enthousiaste parce qu'il faut le faire, hein, c'est quelque chose qui n'avait pas été. Alors, je me demande si l'enthousiasme n'est pas lié aussi à la liberté que ça donne, cette histoire-là, hein, c'est qu'on revendique, hein. Et puis en même temps, sans illusion ou avec les moments, je ne sais plus comment vous appelez ça, les moments de schmazolitude.
Schmazolitude, voilà. Absolument.
Si je pouvais simplement citer une petite phrase, moi je vais me dire très rapidement. Et si nos doigts étaient plus entraînés, nos bouches et nos langues plus savantes, si nous les laissions tous aller à leur curiosité, aurions-nous besoin de ces objets manufacturés qui masquent aussi notre manque d'envie, notre solitude, notre ignorance, notre paresse? Voilà.
Merci de me citer, ça me touche. En fait, il y a ce qui est aussi, vous parlez d'enthousiasme, ce qui m'a aussi rassurée, c'est que finalement les gens qui venaient nous voir, ils étaient quand même déjà dans une démarche de se poser des questions, de se dire j'ai un problème, je vais essayer de le résoudre, je vais pas être passif par rapport à ça. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur le fait qu'on n'est pas complètement anesthésié, on n'est pas en narcolepsie dans cette société non plus. On a quand même une liberté de penser. Et j'ai vu des gens, enfin en fait tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient hors des statistiques. C'est-à-dire que il y avait pas une catégorie socio-professionnelle qui était épargnée et une autre qui était particulièrement touchée. Et ce qui m'a rassurée au final, c'était que finalement ça dépendait d'une force intime chez les gens. J'ai vu des gens de toute origine confondue et de porte-monnaie confondue qui avaient l'air bien dans leur peau, qui avaient l'air bien dans leur pompe et qui avaient réussi quelque part à s'imperméabiliser un petit peu par rapport au, je dirais, à la pensée unique sexuelle ou à un modèle unique de corps qu'on nous vend aussi, qui est jeune, beau, épilé, musclé, etc. Donc, qu'on voit aussi beaucoup dans la pornographie. Moi, c'est peut-être le reproche que j'ai par rapport à la pornographie. Je ne rejette pas la pornographie, je rejette juste l'image unique qu'elle véhicule du corps humain. Et puis des gestes qui sont répétés à l'infini et sans aucune imagination. Et donc, c'est vrai que ce qui était touchant, c'était de voir des gens qui, par exemple, en pratiquant la danse pendant 20 ans, des danses de salon, ils avaient gardé une sensualité et une intensité dans leur vie amoureuse, visiblement, qu'ils n'avaient pas besoin d'étaler, mais qui était manifeste. Je me dis, voilà, il y a quand même des choses qui sont, qu'on peut, il y a une résistance qui est possible, et vous parlez en préambule de votre livre des forces intimes et des forces sociales. Moi, j'ai vu à l'œuvre quelque part des forces intimes dans ces magasins, et j'ai vu des gens qui prenaient conscience, des femmes, par exemple, une femme qui avait quasiment 70 ans et qui est venue pour me remercier parce qu'elle avait eu un orgasme. Elle dit, voilà, la question, est-ce que j'aurais dû m'y coller avant ou est-ce que je devrais être contente d'avoir vécu ça avant de mourir? Mais la question se posait plus, finalement. Il y a deux façons de regarder la vie. Mais c'était une découverte qu'elle n'avait pas besoin de mettre en mots spécialement pendant des heures. Mais c'était bouleversant pour elle. Et rien que de voir ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Donc, il y a cette possibilité de sortir de la monétisation des rapports humains. Et on s'est aussi rendu compte de quelque chose dans ces magasins, c'est qu'il y avait des mots qu'on ne pouvait plus employer. Parce que si je vous dis désir, partage, plaisir, vous avez sans doute l'impression que je vous faire acheter une voiture ou un frigo. Et donc il y avait tout un vocabulaire dont on a eu l'impression qu'il avait été un peu annexé par les acteurs économiques actuels, et donc il fallait réinventer un vocabulaire, trouver d'autres mots. Et ça, c'était aussi une découverte pour nous, et en même temps c'était enrichissant parce qu'on s'est mis à, avec la langue aussi, à trouver des façons. C'est pour ça que j'avais inventé la schmuck et la schmazolitude. C'était une façon d'interpeller et de trouver d'autres mots qui n'étaient pas vidés de leur sens, parce que parler de désir, on a l'impression que c'est pour manger un yaourt. Je sais pas si vous êtes d'accord sur la langue.
Mais ça vient abonder.
Oui, moi j'ai pas grand chose à ajouter, parce qu'effectivement vous explorez des formes de résistance à des enfermements qui viennent de l'extérieur, qui viennent aussi de soi-même, qui viennent aussi de sa vie habituelle. Vous, là, j'ai noté, enfin, vous parlez de la force de l'intimité. Je ne sais pas quelle expression vous avez utilisée là. Ça me parle aussi beaucoup. Donc, il y a cette idée des possibilités d'invention, en fait, à partir de sa propre intimité qu'on retrouve.
Il y a quelque chose qui a dû peut-être vous intéresser aussi dans la démarche de Fleur Breteau, Patrick Farrow, c'est le fait qu'elle prête autant attention aux conversations. C'est quand même un livre beaucoup construit à partir de conversations. Donc, c'est pas traduit comme de l'ethnométhodologie, c'est une démarche assez proche.
C'est très sociologique. C'est très sociologique. J'ai remarqué aussi, c'est tout à fait, c'est ce qui fait l'intérêt du livre. Parce que j'ai remarqué aussi que vous êtes d'une certaine façon, je dirais naturaliste, c'est-à-dire que vous citez, un jour, le personnage reçoit un type qui vient les engueuler, je sais pas, et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Si ce type avait été chef de tribu des Homo sapiens, époque nomade, l'espèce humaine aurait disparu il y a 70 000 ans, incapable d'observer, d'explorer, d'inventer. Voilà. Et alors, dans le livre précédent, moi, j'ai beaucoup essayé d'explorer ça, justement, c'est aimer boire et chanter, mais aussi s'aventurer, voyez. Et je pense qu'on a des bons arguments évolutionnaire pour défendre que l'idée que la capacité de s'aventurer, donc de sortir des frontières, toutes les sortes de frontières, c'est une condition du désir, et c'est une condition aussi. C'est une condition du désir dans un schéma évolutionnaire, parce que c'était une condition de la survie.
Bien sûr. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, l'idée que le désir ne peut pas être hygiénisé, finalement. Essayer de renier l'aspect sombre de la sexualité, c'est nier la sexualité. Et donc, c'est vrai que dans la sexualité, on a tous des désirs qui peuvent nous effrayer, même à des toutes petites échelles. Et accepter, quand on ferme la porte de la chambre à coucher, et d'assumer ses désirs tant qu'il y a un consentement entre adultes et que ça ne... il n'y a de souffrance pour personne, enfin de souffrance non désirée pour personne, c'est intéressant aussi, et en même temps on n'a pas forcément besoin d'en parler, c'est un sujet de découverte.
Merci Fleur Breteau. Je rappelle le titre de ce récit littéraire, L'amour accessoire, il paraît aux éditions Verticales, et puis le livre dont nous avons parlé dans cette suite dans les idées, Le capitalisme addictif, signé Patrick Farrow. Il est publié aux presses universitaires de France. Vous trouvez les références bibliographiques des deux livres sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira, et une page où vous pouvez, je ne garantis pas le caractère non addictif, vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmont, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Bruno Mourlan, à la réalisation Guillaume Baldi. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.